Chapitre 1er, suite. Les jours s'écoulent et les nuits pluvieuses sur la terre fraîchement labourée, au fond de laquelle le pauvre vieux Jean-Michel gît abandonné. Sur le moment, Melchior a beaucoup pleuré, crié, sangloté. Mais la semaine n'est pas finie que Christophe l'entend rire de bon cœur. Quand on prononce devant lui le nom du défunt, sa figure s'allonge et prend un air lugubre. Mais l'instant d'après, il recommence à parler et à gesticuler avec animation. Il est sincèrement affligé, mais il lui est impossible de rester sous une impression triste. Louisa, passive, résignée, a accepté ce malheur comme elle accepte tout. Elle a ajouté une prière à ses prières de chaque jour. Elle va régulièrement au cimetière et prend soin de la tombe comme si la tombe faisait partie du ménage. Gottfried a des attentions touchantes pour le petit carré de terre où dort le vieux. Quand il vient dans le pays, il y porte un souvenir, une croix qu'il a fabriquée, quelques fleurs que Jean-Michel aimait. Il n'y manque jamais, et il se cache pour le faire. Louisa emmène quelquefois Christophe dans ses visites au cimetière. Christophe a un dégoût affreux pour cette terre grasse, revêtue d'une sinistre parure de fleurs et d'arbres, et pour l'odeur lourde qui flotte au soleil, mêlée à la laine des cyprès sonores. Mais il n'ose avouer sa répugnance parce qu'il se la reproche comme une lâcheté et comme une impiété. Il est très malheureux. La mort de grand-père ne cesse de le hanter. Pourtant, il y a longtemps déjà qu'il sait ce que c'est que la mort, qu'il y pense et qu'il en a peur. Mais jamais il ne l'avait encore vue. Et qu'il la voit pour la première fois, s'aperçoit qu'il ne connaissait rien, ni de la mort, ni de la vie. Tout est ébranlé d'un coup. La raison ne sert de rien. On croyait vivre, on croyait avoir quelque expérience de la vie. On voit qu'on ne savait rien. On voit qu'on ne voyait rien. On vivait enveloppé d'un voile d'illusion que l'esprit avait tissé et qui cachait aux yeux le visage de la réalité. Il n'y a aucun rapport entre l'idée de la souffrance et l'être qui saigne et qui souffre. Il n'y a aucun rapport entre la pensée de la mort et les convulsions de la chair et de l'âme qui se débat et meurt. Tout le langage humain, toute la sagesse humaine, n'est qu'un guignol de raides automates auprès de l'éblouissement funèbre de la réalité. Ces misérables êtres de boue et de sang, dont tout le vain effort est de fixer une vie qui pourrit d'heure en heure. Christophe y pensait jour et nuit. Les souvenirs de l'agonie le poursuivaient. Il entendait l'horrible respiration. La nature entière avait changé. Il semblait que se fût étendue sur elle une brume de glace. Autour de lui, partout, de quelque côté qu'il se tournât, il sentait sur sa face le souffle meurtrier de la bête aveugle. Il savait qu'il était sous le poing de cette force de destruction, et qu'il n'y avait rien à faire. Mais loin de l'accabler, cette pensée le brûlait d'indignation contre l'impossible. Il avait beau se briser le front et reconnaître qu'il n'était pas le plus fort, il ne cessait point de se révolter contre la souffrance. Dès lors, sa vie fut une lutte de tous les instants contre la férocité d'un destin qu'il ne voulait pas admettre. À l'obsession de ses pensées, la dureté même de la vie vint faire diversion. La ruine de la famille, que Jean-Michel retardait, se précipita dès qu'il ne fut plus là. Avec lui, les Kraft avaient perdu leurs meilleures ressources, et la misère entra dans la maison. Melchior y ajouta encore. Loin de travailler davantage, il s'abandonna tout à fait à son vice quand il fut délivré du seul contrôle qui le retint. Presque chaque nuit, il rentrait ivre, et il ne rapportait jamais rien de ce qu'il avait gagné. Du reste, il avait perdu à peu près toutes ses leçons. Une fois, il s'était présenté chez une élève dans un état d'ébriété complète. À la suite de ce scandale, toutes les maisons lui furent fermées. À l'orchestre, on ne le tolérait que par égard pour le souvenir de son père. Mais Louisa tremblait qu'il ne fût congédié d'un jour à l'autre après un esclandre. Déjà, on l'en avait menacé certains soirs où il était arrivé à son pupitre vers la fin de la représentation. Deux ou trois fois, il avait même totalement oublié de venir. Et de quoi n'était-il pas capable, dans ces moments d'excitation stupide, où il était pris d'une démangeaison de dire et de faire des sottises? Ne s'avisa-t-il pas, un soir, de vouloir exécuter son grand concerto de violon au milieu d'un acte de la Walküre? On eut toutes les peines du monde à l'en empêcher. Il éclatait de rire pendant la représentation, sous l'empire des images plaisantes qui se déroulaient sur la scène ou dans son cerveau. Il faisait la joie de ses voisins. On lui passait beaucoup de choses en faveur de son ridicule. Mais cette indulgence était pire que la sévérité, et Christophe en mourait de honte. L'enfant était maintenant premier violon à l'orchestre. Il s'arrangeait de façon à veiller sur son père, à le suppléer au besoin, à lui imposer silence, quand Melchior était dans ses jours d'expansion. Ce n'était pas aisé, et le mieux était de ne pas faire attention à lui. Sans quoi l'ivrogne, dès qu'il se sentait regardé, faisait des grimaces ou commençait un discours. Christophe détournait donc les yeux, tremblant de lui voir faire quelque excentricité. Il essayait de s'absorber dans sa tâche, mais il ne pouvait s'empêcher d'entendre les réflexions de Melchior et les rires des voisins. Les larmes lui en venaient aux yeux. Les musiciens, braves gens, s'en étaient aperçus, et ils avaient pitié de lui. Ils mettaient une sourdine à leurs éclats, ils se cachaient de Christophe pour parler de son père. Mais Christophe sentait leur commisération. Il savait que, dès qu'il était sorti, les moqueries reprenaient leur train et que Melchior était la risée de la ville. Il ne pouvait rien pour l'empêcher. C'était un supplice pour lui. Il ramenait son père à la maison après la fin du spectacle. Il lui donnait le bras, subissait ses bavardages, s'évertuait à cacher l'incertitude de sa marche. Mais à qui faisait-il illusion? Et malgré ses efforts, il était rare qu'il réussît à conduire Melchior jusqu'au bout. Arrivé au tournant de la rue, Melchior déclarait qu'il avait un rendez-vous urgent avec des amis, et aucun argument ne pouvait lui persuader de manquer à cet engagement. Il était même prudent de ne pas trop insister si on ne voulait s'exposer à une scène d'imprécation paternelle qui attirait les voisins aux fenêtres. Tout l'argent du ménage y passait. Melchior ne se contentait pas de boire ce qu'il gagnait. Il buvait ce que sa femme et son fils avaient tant de peine à gagner. Louisa pleurait. Mais elle n'osait pas résister, depuis que son mari lui avait durement rappelé que rien dans la maison n'était à elle et qu'il l'avait épousée sans un sou. Christophe voulut regimber. Melchior le calota, le traita de polisson et lui prit l'argent des mains. L'enfant avait 12 à 13 ans. Il était robuste et commençait à gronder contre les corrections. Pourtant, il avait encore peur de se révolter et il se laissait dépouiller. La seule ressource qu'ils eussent, Louisa et lui, était de cacher leur argent. Mais Melchior avait une ingéniosité singulière à découvrir leur cachette quand il n'était pas là. Bientôt, cela ne lui suffit plus. Il vendit les objets hérités de son père. Christophe voyait partir avec douleur les livres, le lit, les meubles, les portraits des musiciens. Il ne pouvait rien dire. Mais un jour que Melchior, s'étant rudement heurté au vieux piano du grand-père, jura de colère en se frottant le genou et disant qu'on n'avait plus la place de remuer chez soi et qu'il allait débarrasser la maison de toutes ses vieilleries, Christophe poussa les hauts cris. C'était vrai que les chambres étaient encombrées depuis qu'on y avait entassé les meubles de grand-père pour vendre sa maison, la chère maison où Christophe avait passé les plus belles heures de son enfance. C'était vrai aussi que le vieux piano ne valait plus cher, et qu'il avait une voix chevrotante, et que depuis longtemps Christophe l'avait abandonné pour jouer sur le beau piano neuf dû aux munificences du prince. Mais si vieux et si impotent qu'il fût, il était le meilleur ami de Christophe. Il avait révélé à l'enfant le monde sans bornes de la musique. Sur ses touches jaunes et polies, il avait découvert le royaume des sons. C'était l'œuvre de grand-père qui avait passé 3 mois à le réparer pour son petit-fils. Il était un objet sacré. Aussi Christophe protesta qu'on n'avait pas le droit de le vendre. Melchior lui intima l'ordre de se taire. Christophe cria plus fort que le piano était à lui et qu'il défendait qu'on y touchât. Il s'attendait à recevoir une solide correction. Mais Melchior le regarda avec un mauvais sourire et se tut. Le lendemain, Christophe avait oublié. Il rentrait à la maison, fatigué, mais d'assez bonne humeur. Il fut frappé des regards sournois de ses frères. Il feignait d'être absorbé dans une lecture, mais ils le suivaient des yeux et guettaient ses mouvements, se replongeant dans leurs livres dès qu'ils les regardaient. Il ne douta point qu'ils ne lui eussent fait quelque mauvaise farce, mais il y était habitué et ne s'en émut pas, résolu, quand il la découvrirait, à les rosser comme il avait coutume. Il dédaigna donc d'approfondir la chose, et il se mit à causer avec son père, qui, assis au coin du feu, l'interrogeait sur sa journée avec une affectation d'intérêt auquel il n'était point fait. Tandis qu'il lui parlait, il s'aperçut que Melchior échangeait en cachette des clignements d'yeux avec les deux petits. Il eut un serrement de cœur. Il courut dans sa chambre. La place du piano était vide. Il poussa un cri de douleur. Il entendit dans l'autre pièce les rires étouffés de ses frères. Tout son sang lui monta au visage. Il bondit vers eux. Il cria « Mon piano !» Melchior leva la tête d'un air paisible et ahuri qui fit éclater de rire les enfants. Lui-même ne put y tenir en voyant la mine piteuse de Christophe, et il se détourna pour pouffer. Christophe perdit conscience de ses actes. Il se jeta comme un fou sur son père. Melchior, renversé dans son fauteuil, n'eut pas le temps de se garer. L'enfant l'avait saisi à la gorge et lui criait « Voleur !» Ce ne fut qu'un éclair. Melchior se secoua et envoya rouler contre le carreau Christophe, qui se cramponnait avec fureur. La tête de l'enfant heurta contre les chenets. Christophe se releva sur les genoux, le front ouvert, et il continuait de répéter, d'une voix suffoquée, « Voleur ! Voleur qui nous vole, maman, moi ! Voleur qui vend grand-père !» Melchior, debout, leva le poing sur la tête de Christophe. L'enfant le bravait avec des yeux haineux, et il tremblait de rage. Melchior se mit à trembler aussi. Il s'assit et se cacha la figure dans ses mains. Les deux petits s'étaient sauvés en poussant des cris aigus. Au vacarme succéda le silence. Melchior gémissait des paroles vagues. Christophe, collé au mur, ne cessait pas de le fixer, les dents serrées. Melchior commença à s'accuser lui-même. « Je suis un voleur. Je dépouille ma famille. Mes enfants me méprisent. Je ferais mieux d'être mort. » Quand il eut fini de geindre, Christophe, sans bouger, demanda d'une voix dure « Où est le piano ?»« Chez Wormser, » dit Melchior, n'osant pas le regarder. Christophe fit un pas et dit « L'argent !» Melchior, annihilé, tira l'argent de sa poche et le remit à son fils. Christophe se dirigea vers la porte. Melchior l'appela « Christophe !» Christophe s'arrêta. Melchior reprit d'une voix tremblante « Mon petit Christophe, ne me méprise pas !» Christophe se jeta à son cou et sanglota « Papa, mon cher papa, je ne te méprise pas, je suis si malheureux !» Il pleurait bruyamment. Melchior se lamentait. « Ce n'est pas ma faute, je ne suis pourtant pas méchant. » Il promettait de ne plus boire. Christophe hochait la tête d'un air de doute, et Melchior convenait qu'il ne pouvait pas résister quand il avait de l'argent dans les mains. Christophe réfléchit et dit « Sais-tu, papa, il faudrait... » Il s'arrêta. « Quoi donc ?»« J'ai honte. »« Pour qui ?» demanda naïvement Melchior. « Pour toi. » Melchior fit la grimace et dit « Cela ne fait rien. » Christophe expliqua qu'il faudrait que tout l'argent de la famille, même le traitement de Melchior, fût confié à un autre, qui remettrait à Melchior, jour par jour ou semaine par semaine, ce dont il aurait besoin. Melchior, qui était en veine d'humilité, il n'était pas tout à fait à jeun, renchérit sur la proposition et déclara qu'il voulait écrire, séance tenante, une lettre au grand-duc pour que la pension qui lui revenait fût régulièrement payée en son nom à Christophe. Christophe refusait, rougissant de l'humiliation de son père. Mais Melchior, dévoré d'une soif de sacrifice, s'obstina à écrire. Il était ému de la magnanimité de son acte. Christophe refusa de prendre la lettre. Et Louisa, qui venait de rentrer, mise au courant de l'affaire, déclara qu'elle aimerait mieux mendier que d'obliger son mari à cet affront. Elle ajouta qu'elle avait confiance en lui et qu'elle était sûre qu'il s'amenderait pour l'amour d'eux. Cela finit par une scène d'attendrissement général. Et la lettre de Melchior, oubliée sur la table, alla tomber sous l'armoire où elle resta cachée. Mais, quelques jours après, Luisa l'y retrouva, en faisant le ménage. Et comme elle était très malheureuse alors des nouveaux désordres de Melchior, qui avaient recommencé, au lieu de déchirer le papier, elle le mit de côté. Elle le garda plusieurs mois, repoussant toujours l'idée de s'en servir, malgré les souffrances qu'elle endurait. Mais un jour qu'elle vit, une fois de plus, Melchior battre Christophe et le dépouiller de son argent, elle n'y tint plus. Et seule avec l'enfant qui pleurait, elle alla prendre la lettre, la lui donna et dit « Va !» Christophe hésitait encore, mais il comprit qu'il n'y avait plus d'autre moyen, si on voulait sauver de la ruine totale le peu qu'il leur restait. Il alla au palais. Il mit près d'une heure à faire le trajet de 20 minutes. La honte de sa démarche l'accablait. Son orgueil, qui s'était exalté dans ses dernières années d'isolement, saignait à la pensée d'avouer publiquement le vice de son père. Par une étrange et naturelle inconséquence, il savait que ce vice était connu de tous, et il s'obstinait à vouloir donner le change, il feignait de ne s'apercevoir de rien. Il se fut laissé hacher en morceaux plutôt que d'en convenir. Et maintenant, de lui-même, il allait. 20 fois, il fut sur le point de revenir. Il fit 2 ou 3 fois le tour de la ville, retournant sur ses pas au moment d'arriver. Mais il n'était pas seul en cause. Il s'agissait de sa mère, de ses frères. Puisque son père les abandonnait, c'était à lui, fils aîné, de venir à leur aide. Il n'y avait plus à hésiter, à faire l'orgueilleux. Il fallait boire la honte. Il entra au palais. Dans l'escalier, il faillit encore s'enfuir. Il s'agenouilla sur une marche. Il resta plusieurs minutes sur le palier, la main sur le bouton de la porte, jusqu'à ce que l'arrivée de quelqu'un le forçât à entrer. Tout le monde le connaissait au bureau. Il demanda à parler à son excellence, l'intendant des théâtres, parent de Hammer Langbach. Un employé, jeune, gras, chauve, le teint fleuri, avec un gilet blanc et une cravate rose, lui serra familièrement la main et se mit à parler de l'opéra de la veille. Christophe répéta sa question. L'employé répondit que son excellence était occupée en ce moment, mais que, si Christophe avait une requête à lui présenter, on la lui ferait passer avec d'autres pièces qu'on allait lui porter à signer. Christophe tendit la lettre. L'employé y jeta les yeux et poussa une exclamation de surprise. « Ah, par exemple, » fit-il gaiement, « voilà une bonne idée. Il y a longtemps qu'il aurait dû s'aviser de cela. De toute sa vie, il n'a rien fait de mieux. Ah, le vieux pochard! Comment diable a-t-il pu s'y résoudre ?» Il s'arrêta net. Christophe lui avait arraché le papier des mains et criait, blême de colère, « je vous défends de m'insulter !» Le fonctionnaire fut stupéfait. « Mais, cher Christophe, essaya-t-il de dire, qui songe à t'insulter ? Je n'ai dit que ce que tout le monde pense. Toi-même, tu le penses. » « Non, » cria rageusement Christophe. « Quoi, tu ne le penses pas ? Tu ne penses pas qu'il boit ? Ce n'est pas vrai, » dit Christophe. Il trépignait. L'employé haussa les épaules. « En ce cas, pourquoi a-t-il écrit cette lettre ?»« Parce que, » dit Christophe, il ne sut plus que dire, « parce que, comme je viens toucher mon traitement, chaque mois, je puis prendre en même temps celui de mon père. Il est inutile que nous nous dérangions tous deux. Mon père est très occupé. » Il rougissait de l'absurdité de son explication. L'employé le regardait avec un mélange d'ironie et de pitié. Christophe, froissant le papier dans sa main, fit mine de sortir. L'autre se leva et lui prit le bras. « Attends un moment, » dit-il, « je vais arranger les choses. » Il passa dans le cabinet du directeur. Christophe attendit sous les regards des autres employés. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. Il songea à se sauver avant qu'on lui rapportât la réponse, et il s'y disposait quand la porte se rouvrit. « Son Excellence veut bien te recevoir, » lui dit le trop serviable employé. Christophe dut entrer. Son Excellence, le baron Hammer Langbach, un petit vieux propret, avec des favoris, des moustaches et le menton rasé, regarda Christophe par-dessus ses lunettes d'or, sans s'interrompre d'écrire, ni répondre d'un signe de tête à ses saluts embarrassés. « Ainsi, » dit-il après un moment, « vous demandez, monsieur Kraft, Votre Excellence, dit précipitamment Christophe, je vous prie de me pardonner. J'ai réfléchi, je ne demande plus rien. Le vieillard ne chercha pas à avoir une explication de ce revirement subi. Il regarda plus attentivement Christophe, tout sauta et dit « Voudriez-vous me donner, Monsieur Kraft, la lettre que vous tenez à la main ?» Christophe s'aperçut que le regard de l'intendant était fixé sur le papier qu'il continuait, sans y penser, à froisser dans son poing. « C'est inutile, Votre Excellence, balbutia-t-il. Ce n'est plus la peine maintenant. Donnez, je vous prie, reprit tranquillement le vieillard, comme s'il n'avait pas entendu. » Christophe, machinalement, donna le chiffon de lettres. Mais il se lança dans un flot de paroles embrouillées, tendant toujours la main pour ravoir la lettre. L'Excellence déplia soigneusement le papier, le lut, regarda Christophe, le laissa patauger dans ses explications, puis l'interrompit, et dit, avec un éclair malicieux dans les yeux, « C'est bien, Monsieur Kraft, la demande est accordée. » De la main, il lui donna congé et se replongea dans ses écritures. Christophe sortit, consterné. « Sans rancune, Christophe, » lui dit cordialement l'employé, quand l'enfant repassa par le bureau. Christophe se laissa prendre et secouer la main, sans oser lever les yeux. Il se retrouva hors du château. Il était glacé de honte. Tout ce qu'on lui avait dit lui revenait à l'esprit. Et il s'imaginait sentir une ironie injurieuse dans la pitié des gens qui l'estimaient et le plaignaient. Il rentra à la maison. Il répondit à peine par quelques mots irrités aux questions de Louisa, comme s'il lui gardait rancune de ce qu'il venait de faire. Il était déchiré de remords à la pensée de son père. Il voulait lui avouer tout, lui demander pardon. Melchior n'était pas là. Christophe l'attendit s'endormir jusqu'au milieu de la nuit. Plus il pensait à lui, plus ses remords augmentaient. Il l'idéalisait. Il se le représentait faible, bon, malheureux, trahi par les siens. Dès qu'il entendit son pas dans l'escalier, il sauta du lit pour courir à sa rencontre et se jeter dans ses bras. Mais Melchior rentrait dans un état d'ivresse si dégoûtant que Christophe n'eut pas même le courage de l'approcher. Et il alla se recoucher en raillant amèrement ses illusions. Quand Melchior, quelques jours plus tard, apprit ce qui s'était passé, il eut un accès de colère épouvantable. Et malgré les supplications de Christophe, il alla faire une scène au palais. Mais il en revint tout penaud, et il ne souffla mot de ce qui avait eu lieu. On l'avait reçu fort mal. On lui avait dit qu'il eut à le prendre sur un autre ton, qu'on ne lui avait conservé sa pension qu'en considération du mérite de son fils, et que si l'on apprenait de lui le moindre scandale à l'avenir, elle lui serait totalement supprimée. Aussi Christophe fut-il soulagé de voir son père accepter sa situation du jour au lendemain et se vanter même d'avoir eu l'initiative de ce sacrifice. Cela n'empêcha point Melchior d'aller larmoyer au dehors, qu'il était dépouillé par sa femme et par ses enfants, qu'il s'était exténué pour eux toute sa vie et que maintenant on le laissait manquer de tout. Il tâchait aussi de soutirer de l'argent à Christophe par toutes sortes de câlineries et de ruses ingénieuses qui donnait envie de rire à Christophe, bien qu'il n'en eût guère sujet. Mais comme Christophe tenait bon, Melchior n'insistait pas. Il se sentait étrangement intimidé devant les yeux sévères de cet enfant de 14 ans qui le jugeait. Il se vengeait en cachette par quelques mauvais tours. Il allait au cabaret, buvait et régalait, et il ne payait rien, prétendant que c'était à son fils d'acquitter ses dettes. Christophe ne protestait pas, de peur d'augmenter le scandale. Et, d'accord avec Louisa, il s'épuisait à payer les dettes de Melchior. Enfin, Melchior se désintéressa de plus en plus de sa charge de violoniste depuis qu'il n'en touchait plus le traitement. Et ses absences devinrent si fréquentes au théâtre que, malgré les prières de Christophe, on finit par le mettre à la porte. L'enfant resta donc seul chargé de soutenir son père, ses frères et toute la maison. Ainsi Christophe devint chef de famille à 14 ans. Il accepta résolument cette tâche écrasante. Son orgueil lui défendait de recourir à la charité des autres. Il se jura de se tirer d'affaire seul. Il avait trop souffert, depuis l'enfance, de voir sa mère accepter, quêter d'humiliantes aumônes. C'était un sujet de discussion avec elle, quand la bonne femme revenait au logis, triomphante d'un cadeau qu'elle avait obtenu d'une de ses protectrices. elle n'y voyait pas malice, et se réjouissait de pouvoir, grâce à cet argent, épargner un peu de peine à son Christophe, et ajouter un plat au maigre souper. Mais Christophe devenait sombre, il ne parlait plus de la soirée. Il refusait, sans dire pourquoi, de toucher à la nourriture qui avait été ainsi obtenue. Louisa était chagrinée, elle harcelait maladroitement son fils pour qu'il mangeât. Il s'obstinait, elle finissait par s'impatienter, et lui disait des choses désagréables auxquelles il répondait. Alors il jetait sa serviette sur la table et sortait. Son père haussait les épaules et l'appelait poseur. Ses frères se moquaient de lui et mangeaient sa part. Il fallait pourtant trouver les moyens de vivre. Son traitement à l'orchestre n'y suffisait plus. Il donna des leçons. Son talent de virtuose, sa bonne réputation, et surtout la protection du prince, lui attirèrent une nombreuse clientèle dans la haute bourgeoisie. Tous les matins, depuis 9 heures, il enseignait le piano à des fillettes, souvent plus âgées que lui, qui l'intimidaient par leur coquetterie et qui l'exaspéraient par la niaiserie de leur jeu. Elles étaient, en musique, d'une stupidité parfaite. En revanche, elles possédaient toutes, plus ou moins, un sens aigu du ridicule. Et leurs regards moqueurs ne faisaient grâce à Christophe d'aucune de ses maladresses. C'était une torture pour lui. Assis à côté d'elle, sur le bord de sa chaise, rouge et guindé, crevant de colère et n'osant pas bouger, se tenant à quatre pour ne pas dire des sottises, et ayant peur du son de sa voix, s'efforçant de prendre un air sévère, et se sentant observé du coin de l'œil, il perdait contenance, se troublait au milieu d'une observation, craignait d'être ridicule, l'était, et s'emportait jusqu'aux reproches blessants. Il était bien facile à ses élèves de se venger, et elle n'y manquait point, en l'embarrassant par une certaine façon de le regarder, de lui poser les questions les plus simples, qui le faisaient rougir jusqu'aux yeux. Ou bien elle lui demandait un petit service, comme d'aller prendre sur un meuble un objet oublié, ce qui était pour lui la plus pénible épreuve, car il fallait traverser la chambre sous le feu des regards malicieux qui guettaient impitoyablement les gaucheries de ses mouvements, ses jambes maladroites, ses bras raides, son corps ankylosé par l'embarras. De ses leçons, il devait courir à la répétition du théâtre. Souvent, il n'avait pas le temps de déjeuner. Il emportait dans sa poche un morceau de pain et de charcuterie qu'il mangeait pendant l'entracte. Il suppléait parfois Tobias Pfeiffer, le music director, qui s'intéressait à lui et l'exerçait à diriger de temps en temps à sa place les répétitions d'orchestre. Il lui fallait aussi continuer sa propre éducation musicale. D'autres leçons de piano remplissaient sa journée jusqu'à l'heure de la représentation. Et bien souvent, le soir, après la fin du spectacle, on le demandait au château. Là, il devait jouer pendant 1 heure ou 2. La princesse prétendait se connaître en musique. Elle l'aimait fort, sans faire de différence entre la bonne et la mauvaise. Elle imposait à Christophe des programmes baroques où de plates rhapsodies coudoyaient les chefs-d'œuvre. Mais son plus grand plaisir était de le faire improviser, et elle lui fournissait les thèmes d'une sentimentalité écœurante. Christophe sortait de là, vers minuit, harassé, les mains brûlantes, la tête fiévreuse, l'estomac vide. Il était en sueur, et dehors la neige tombait ou un brouillard glacé. Il avait plus de la moitié de la ville à traverser pour regagner sa maison. Il rentrait à pied, claquant des dents, mourant d'envie de dormir, et il devait prendre garde à ne pas salir dans les flaques son unique habit de soirée. Il retrouvait sa chambre, qu'il partageait toujours avec ses frères, et jamais le dégoût et le désespoir de sa vie, jamais le sentiment de sa solitude ne l'accablait autant qu'à ce moment où, dans ce galetas à l'odeur étouffante, il lui était enfin permis de déposer son collier de misère. À peine avait-il le courage de se déshabiller. Heureusement, dès qu'il posait la tête sur l'oreiller, il était terrassé par le sommeil qui lui enlevait la conscience de ses peines. Mais dès l'aube en été, bien avant l'aube en hiver, il fallait qu'il se levât. Il voulait travailler pour lui. Le seul moment de liberté qu'il eut était entre 5 et 8 heures. Encore en devait-il perdre une partie à des travaux de commande. Car son titre de Hofmusikus et sa faveur auprès du grand-duc l'obligeait à des compositions officielles pour les fêtes de la cour. Ainsi, jusqu'à la source de sa vie était empoisonnée. Ses rêves même n'étaient point libres. mais comme c'est l'habitude, la contrainte les rendait plus forts. Quand rien n'entrave l'action, l'âme a bien moins de raisons pour agir. Plus étroite se resserrait autour de Christophe la prison des soucis et des tâches médiocres, plus son cœur révolté sentait son indépendance. Dans une vie sans entrave, il se fût abandonné sans doute au hasard des heures. Ne pouvant être libre qu'une heure ou deux par jour, sa force s'y ruait comme un torrent entre les rochers. C'est une bonne discipline pour l'art que de resserrer ses efforts dans d'implacables limites. En ce sens, on peut dire que la misère est un maître non seulement de pensée, mais de style. Elle apprend la sobriété à l'esprit comme au corps. Quand le temps est compté et les paroles mesurées, on ne dit rien de trop et on prend l'habitude de ne penser que l'essentiel. Ainsi, on vit double, ayant moins de temps pour vivre. Il en fut ainsi. Christophe prit sous le joug pleine conscience de la valeur de la liberté. Et il ne gaspillait pas les minutes précieuses à des actes ou des mots inutiles. Sa tendance naturelle à écrire avec une abondance diffuse, livrée à tous les caprices d'une pensée sincère, mais sans choix, trouva son correctif dans l'obligation de se réaliser le plus possible en le moins de temps possible. Rien n'eut tant d'influence sur son développement artistique et moral, ni les leçons de ses maîtres, ni l'exemple des chefs-d'œuvre. Il acquit dans ces années où le caractère se forme l'habitude de considérer la musique comme une langue précise dont chaque note a un sens, et il prit en haine les musiciens qui parlent pour ne rien dire. Cependant, les compositions qu'il écrivait alors étaient bien loin de l'exprimer complètement, parce qu'il était lui-même bien loin de s'être découvert. Il se cherchait à travers l'amas de sentiments acquis que l'éducation impose à l'enfant comme une seconde nature. Il n'avait que des intuitions de son être véritable, faute d'avoir encore ressenti les passions de l'adolescence qui dégagent la personnalité de ses vêtements d'emprunt comme un coup de tonnerre purge le ciel des vapeurs qui l'enveloppent. D'obscurs et puissants pressentiments se mêlaient en lui aux réminiscences étrangères dont il ne pouvait se défaire. Il s'irritait de ses mensonges. Il se désolait de voir combien ce qu'il écrivait était inférieur à ce qu'il pensait. Il doutait amèrement de lui. Mais il ne pouvait se résigner à cette stupide défaite. Il s'enrageait à faire mieux, à écrire de grandes choses. Et toujours il échouait. Après un instant d'illusion, pendant qu'il écrivait, il s'apercevait que ce qu'il avait écrit ne valait rien. Il le déchirait, il le brûlait. Et, pour achever sa honte, il fallait qu'il vît conserver, sans pouvoir les anéantir, ses œuvres officielles les plus médiocres de toutes. Le concerto « L'aigle royal » pour l'anniversaire du prince et la cantate « L'hymen de Pallas » écrite à l'occasion du mariage de la princesse Adélaïde, publiée à grands frais, en édition de luxe, qui perpétuait son imbécilité pour les siècles à venir. Car il croyait au siècle à venir. Il en pleurait d'humiliation. Fiévreuses années. Nul répit, nul relâche. Rien qui fasse diversion à ce labeur affolant. Point de jeu, point d'amis. Comment en aurait-il? L'après-midi, à l'heure où les autres enfants s'amusent, le petit Christophe, le front plissé par la tension, est assis à son pupitre d'orchestre, dans la salle de théâtre poussiéreuse et mal éclairée. Et le soir, quand les autres enfants sont couchés, il est encore là, affaissé sur sa chaise et crispé de fatigue. Aucune intimité avec ses frères. Le cadet, Ernst, avait 12 ans. C'était un petit vaurien, vicieux et effronté, qui passait ses journées avec quelques chenapans de sa sorte, et qui, dans leur société, avait pris non seulement des façons déplorables, mais des honteuses habitudes dont l'honnête Christophe, qui n'aurait même pas pu en concevoir l'idée, s'était aperçu un jour avec horreur. L'autre, Rodolphe, le favori de l'oncle Théodore, se destinait au commerce. Il était rangé, tranquille, mais sournois. Il se croyait très supérieur à Christophe et n'admettait pas son autorité sur la maison, bien qu'il trouvât naturel de manger son pain. Il avait épousé les rancunes de Théodore et de Melchior contre lui, et il répétait leurs racontars ridicules. Aucun des deux frères n'aimait la musique, et Rodolphe affectait de la mépriser, comme son oncle, par esprit d'imitation. gêné par la surveillance et les semonces de Christophe, qui prenait au sérieux son rôle de chef de famille, les deux petits avaient tenté de se révolter, mais Christophe avait de bons points et la conscience de son droit. Il faisait marcher rondement ses cadets. Il n'en faisait pas moins de lui ce qu'il voulait. Ils abusaient de sa crédulité, ils lui tendaient des panneaux où il ne manquait jamais de tomber. Ils lui extorquaient de l'argent, mentaient impudemment et se moquaient de lui derrière son dos. Le bon Christophe se laissait toujours prendre. Il avait un tel besoin d'être aimé qu'un mot affectueux suffisait pour désarmer sa rancune. Il leur eût tout pardonné pour un peu d'amour. Mais sa confiance était cruellement ébranlée depuis qu'il les avait entendus rire de sa bêtise après une scène d'embrassements hypocrites qui l'avait ému jusqu'aux larmes. Ce dont ils avaient profité pour le dépouiller d'une montre en or, cadeau du prince qu'il convoitait. Il les méprisait et pourtant continuait à se laisser duper par un penchant incorrigible à croire et à aimer. Il le savait, il se mettait en rage contre lui-même et il rouait de coups ses frères quand il découvrait une fois de plus qu'il s'était joué de lui. Après quoi, il avalait de nouveau le premier hameçon qu'il leur plaisait de lui jeter. Une plus amère souffrance lui était réservée. Il apprit par d'officieux voisins que son père disait du mal de lui. Après avoir été glorieux des succès de son fils, Melchior avait la honteuse faiblesse d'en devenir jaloux. Il cherchait à les rabaisser. C'était bête à pleurer. On ne pouvait que hausser les épaules. Il n'y avait même pas à se fâcher, car il était inconscient de ce qu'il faisait et aigri par sa déchéance. Christophe se taisait. Il eut craint, s'il parlait, de dire des choses trop dures, mais il avait le cœur ulcéré. Triste réunion que ces soupers de famille, le soir, autour de la lampe, sur la nappe tachée, au milieu des propos insipides et du bruit des mâchoires de ces êtres qu'il méprise, qu'il plaint et qu'il aime malgré tout. Avec la brave maman, seule, Christophe sentait un lien de commune affection. Mais Louisa, ainsi que lui, s'exténuait tout le jour, et le soir elle était éteinte, elle ne disait presque rien, et s'endormait sur sa chaise après dîner en reprisant des chaussettes. D'ailleurs, elle était si bonne qu'elle ne semblait pas faire de différence dans son affection entre son mari et ses trois fils. Elle les aimait tous également. Christophe ne trouvait pas en elle la confidente dont il avait tant besoin. Il s'enfermait en lui. Il se taisait pendant des jours entiers, accomplissant sa tâche monotone et harassante avec une sorte de rage silencieuse. Un tel régime était dangereux pour un enfant à un âge de crise où l'organisme, plus sensible, est livré à toutes les causes de destruction et risque de se déformer pour le reste de la vie. La santé de Christophe en souffrit gravement. Il avait reçu des siens une solide charpente, une chair saine et sans tare, mais ce corps vigoureux ne fit qu'offrir plus d'aliments à la douleur quand l'excès des fatigues et des soucis précoces y eut ouvert une brèche par où elle put entrer. De très bonne heure, s'étaient annoncés chez lui des désordres nerveux. Il avait tout petit des évanouissements, des convulsions, des vomissements quand il éprouvait une contrariété. Vers 7 ou 8 ans, à l'époque de ses débuts au concert, son sommeil était inquiet. Il parlait, criait, riait, pleurait en dormant. Et cette disposition maladive se renouvelait chaque fois qu'il avait des préoccupations vives. Puis ce furent de cruelles douleurs à la tête, tantôt des élancements dans la nuque et les côtés du crâne, tantôt un casque de plomb. Les yeux lui faisaient mal. C'était par instants des pointes d'aiguilles qui s'enfonçaient dans l'orbite. Il avait des éblouissements et ne pouvait plus lire. Il devait s'arrêter pendant quelques minutes. La nourriture insuffisante ou malsaine et l'irrégularité des repas ruinaient son robuste estomac. Il était rongé par des douleurs d'entrailles ou une diarrhée qui l'épuisait. Mais rien ne le faisait plus souffrir que son cœur. Il était d'une irrégularité folle. Tantôt il bondissait tumultueusement dans la poitrine, à croire qu'il allait se briser. Tantôt il battait à peine et semblait prêt de s'arrêter. La nuit, la température de l'enfant avait des sautes effrayantes. Elle passait sans transition de la grosse fièvre à l'anémie. Il brûlait, il tremblait de froid, il avait des angoisses, sa gorge se contractait, une boule dans le cou l'empêchait de respirer. Naturellement, son imagination se frappa. Il n'osait parler au sien de ce qu'il ressentait, mais il l'analysait sans cesse avec une attention qui grossissait ses souffrances ou en créait de nouvelles. Il se prêta, l'une après l'autre, toutes les maladies connues. Il crut qu'il allait devenir aveugle. Et comme il avait quelquefois des vertiges en marchant, il craignait de tomber mort. Toujours cette horrible peur d'être arrêté en chemin, de mourir avant l'âge, l'obsédait, l'accablait, le talonnait à la fois. Ah, s'il fallait mourir, au moins pas maintenant, pas avant d'être vainqueur. La victoire, l'idée fixe qui ne cesse de le brûler, sans qu'il s'en rende compte, qui le soutient à travers les dégoûts, les fatigues, le marais croupissant de cette vie. Conscience sourde et puissante de ce qu'il sera plus tard, de ce qu'il est déjà. Ce qu'il est, un enfant maladif et nerveux qui joue du violon à l'orchestre et écrit de médiocres concertos? Non, bien au-delà de cet enfant. Ceci n'est que l'enveloppe, la figure d'un jour. Ceci n'est pas son être. Il n'y a aucun rapport entre son être profond et la forme présente de son visage et de sa pensée. Lui-même le sait bien. S'il se voit dans son miroir, il ne se reconnaît pas. Cette face large et rouge, ses sourcils proéminents, ses petits yeux enfoncés, ce nez court, gros du bout, aux narines dilatées, cette lourde mâchoire, cette bouche boudeuse, tout ce masque, laid et vulgaire, lui est étranger. Il ne se reconnaît pas davantage dans ses œuvres. Il se juge, il sait la nullité de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Et pourtant il est sûr de ce qu'il sera et de ce qu'il fera. Il se reproche parfois cette certitude comme un mensonge d'orgueil. Et il prend plaisir à s'humilier, à se mortifier amèrement, afin de se punir. Mais la certitude persiste, et rien ne peut l'altérer. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il pense, aucune de ses pensées, de ses actions, de ses œuvres, ne l'enferme ni ne l'exprime. Il le sait, il a ce sentiment étrange que ce qu'il est le plus, ce n'est pas ce qu'il est à présent, c'est ce qu'il sera demain. Il sera. Il brûle de cette foi, il s'enivre de cette lumière. Ah, pourvu qu'aujourd'hui ne l'arrête pas au passage. Pourvu qu'il ne trébuche pas dans un des pièges sournois, qu'aujourd'hui ne se lasse pas de tendre sous ses pas. Ainsi, il lance sa barque à travers les flots des jours, sans détourner les yeux ni à droite ni à gauche, immobile à la barre, le regard fixe et tendu vers le but. À l'orchestre, parmi les musiciens bavards, à table, au milieu des siens, au palais, tandis qu'il joue, sans penser à ce qu'il joue, pour le divertissement des fantoches princiers, c'est dans ce problématique avenir, cet avenir qu'un atome peut ruiner à jamais, n'importe, c'est là qu'il vit. Il est à son vieux piano, dans sa mansarde, seul. La nuit tombe. La lueur mourante du jour glisse sur le cahier de musique. Il se brise les yeux à lire jusqu'à la dernière goutte de lumière. La tendresse des grands cœurs éteints, qui s'exhale de ses pages muettes, le pénètre amoureusement. Ses yeux se remplissent de larmes. Il lui semble qu'un être cher se tient derrière lui, qu'une haleine caresse sa joue, que deux bras vont enlacer son cou. Il se retourne frissonnant. Il sent, il sait qu'il n'est pas seul. Une âme aimante, aimée, est là auprès de lui. Il gémit de ne pouvoir la prendre. Et pourtant, cette ombre d'amertume, mêlée à son extase, a encore une douceur secrète. La tristesse même est lumineuse. Il pense à ses maîtres chéris, les génies disparus, dont l'âme revit dans ses musiques. Le cœur gonflé d'amour, il songe au bonheur surhumain, qui dut être la part de ses glorieux amis, puisqu'un reflet de leur bonheur est encore si brûlant. Il rêve d'être comme eux, de rayonner cet amour dont quelques rayons perdus illuminent sa misère d'un sourire divin. Être Dieu à son tour, être un foyer de joie, être un soleil de vie. Hélas, s'il devient un jour l'égal de ceux qu'il aime, s'il atteint à ce bonheur lumineux qu'il envie, il verra son illusion.